Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Que vous soyez du milieu médical ou non, je vous invite à rester à l'écoute de ces témoignages de patients et de soignants qui enrichissent jour après jour ma pratique. Je m'appelle Aurélie, infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. L'idée de ce podcast est née d'une envie de faire découvrir au grand public la réalité du métier, le côté agréable et humain auprès des malades et de ses collègues, et au contraire, le manque de moyens et de personnel d'autant plus évident ces derniers mois. De plus, il me paraissait aussi important d'inclure des témoignages de patients afin qu'ils nous fassent part de leur parcours de vie, des bons et des mauvais moments. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast en compagnie de Grégory. Depuis la rentrée 2018, il existe un nouveau master pour la profession infirmier dans la pratique avancée. Dans ce podcast, Grégory nous explique son parcours dans ce nouveau métier encore mal connu. Salut Greg, et merci d'avoir accepté d'être sur le podcast. Pour que tout le monde puisse mieux te connaître, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît ?
Bonjour, je m'appelle Grégory, j'ai 40 ans, je suis diplômé depuis 2005 et j'ai toujours évolué en cardiologie. Donc j'ai fait une dizaine d'années de soins intensifs et après j'ai commencé ma formation d'IPA.
Et comment t'es venue l'idée de faire les études pratiques avancées alors ?
Ah, c'est une belle histoire ça. Non, en fait en 2017, on a assisté aux journées de l'insuffisance cardiaque qui étaient sur Lille, il me semble. Et c'était la journée francophone des insuffisants cardiaques. Et donc, on a eu la chance d'avoir des Québécois, on a eu la chance d'avoir des collègues de Suisse, des collègues de Belgique. Et c'est vrai qu'ils ont énormément parlé de la pratique avancée. Et en tout cas, comment eux l'ont implanté. Et ils l'ont implanté là-bas. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce qu'on avait vraiment les deux visions des choses, c'est-à-dire la vision paramédicale et la vision médicale. Et en fait, ça faisait, en tout cas à l'époque, ça faisait à peu près 10 ans que la pratique avancée était implantée là-bas, je parle au Québec. Et on se rendait compte que les deux parties trouvaient vraiment leur compte. C'est-à-dire que quand on les écoutait, que ce soit les médecins ou les paramédicaux, les études qui avaient été effectuées là-bas prouvaient qu'il n'y avait pas de perte de chance pour les patients et au contraire les patients étaient optimisés un petit peu plus rapidement, ils avaient évité pas mal d'hospitalisations, c'était vraiment en tout cas une part quand même relativement bénéfique pour le patient et ça permettait aussi surtout de dégager du temps médical également pour prendre les cas les plus complexes, etc. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est l'espèce de synergie qu'il y avait entre les infirmiers et les médecins. Et on sentait que vraiment les deux corps de métier étaient vraiment satisfaits de la collaboration. Et donc, c'était à cette époque-là où commençaient à sortir les décrets sur la pratique avancée, en sachant que le premier décret date de 2016, il me semble, mais c'était un décret qui était un petit peu vide. Et il faut attendre 2018 pour avoir un vrai décret avec les vraies compétences, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, on a assisté à cette journée de l'insuffisance cardiaque. J'étais avec mes collègues médecins. Et donc, on en a discuté pour l'implantation dans notre service de cardio. Et c'est là où l'idée a commencé à germer. Et c'est bien tombé parce que, en fait, quelques mois après, on a appris que la région commençait à travailler sur un master de pratique avancée et qui allait être mis en place à la rentrée 2019. On a commencé à discuter du projet, c'est-à-dire déjà voir s'il y avait des besoins, voir comment on pourrait travailler sur l'implantation, l'avis médical, c'est-à-dire comment ils allaient imaginer l'implantation de la pratique avancée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même des besoins et que de la mettre en place, ça serait plutôt bien. On a monté un dossier et donc ensuite, après, j'ai commencé ma formation. T'avais pas toute l'histoire?
Non, j'avais pas le début de l'histoire. Et donc, ces deux années d'études, ça se déroule comment?
Alors, c'est un diplôme régional. Donc, il y a quatre facultés qui travaillent en collaboration étroite. Et donc, il y a quatre spécialités. Il y a les pathologies chroniques stabilisées, donc ça comporte la cardio, ça comporte le vasculaire, la neuro, la diabétologie et la pneumo. Donc, ça commence à faire beaucoup de pathologies. Ensuite, il y a mes collègues qui sont en hémato-onco, des collègues qui sont en psychiatrie et des collègues qui sont en neuronéphro. Chaque faculté gère une discipline. La formation dure 2 ans. Là, avec la crise du Covid, ça a été un petit peu compliqué. Donc, il y a une partie en présentiel, une partie en e-learning. La première année, 2 mois de stage. Et la deuxième année, il y a 4 mois de stage professionnalisant.
D'accord. Voilà. Ton premier stage, là, tu l'as fait...
En vasculaire, d'accord. Ouais. En vasculaire, ça a été hyper formateur. Après, c'est une discipline qui est cousine de la cardiologie, oui. Donc j'étais pas complètement en terrain connu. C'était très formateur parce que déjà, rien qu'au niveau de la posture et au niveau de l'acquisition de certains automatismes, au niveau de l'examen clinique, etc., etc. Enfin, rien de beau le terrain, quoi. On a beau te faire tous les cours... qu'on veut sur l'examen clinique, on a beau te faire écouter des murmures vésiculaires, des ci, des ça, mine de rien, tant que tu l'as pas appliqué, ça permet pas.
Je vois que t'as ton stéthoscope dans ta poche.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, maintenant, en tout cas, quand on voit un patient, il faut qu'on sache l'examiner. Et c'est incontournable. On ne peut pas faire une consultation sans faire un examen clinique, et surtout en cardiologie, avec toutes les risques de surcharge, etc. Donc, il faut savoir servir d'un stétho.
Oui, c'est ça. Après les bruits que tu pouvais entendre, toute la consultation que...
Alors voilà, il y a toute une partie théorique de l'examen clinique. Il y a une partie qui est faite à la faculté, c'est-à-dire on fait des cas concrets, des médecins interviennent pour nous expliquer un petit peu. Bon, moi, j'avais commencé un petit peu avant, hein, mais en tout cas, il nous donne les bases de l'examen clinique. Alors, on a quelques heures de formation là-dessus, mais ça reste quelque chose qui est quand même assez limité. Et de toute façon, il n'y a que l'entraînement en stage et la multiplication du geste qui fait que tu es à l'aise dans ton examen clinique. Donc on a les bases à la fac, mais ensuite après, c'est le terrain qui va nous apprendre à faire un examen clinique. Après, il y a beaucoup de cours magistraux qui sont réalisés par les médecins. Donc, en sachant qu'il y a pas mal de cours où on fait des analyses de situation, c'est-à-dire on prend des cas concrets et on analyse la prise en charge. C'est des cours qui sont faits en médecine généralement. Donc, tu prends une discipline, tu prends un cas concret et là tu vas analyser la prise en charge pour... Il y a volontairement des trous dans la prise en charge pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir savoir exactement ce qui a été oublié, ce que l'on ferait, etc. Donc c'est hyper intéressant et c'est super formateur. Après, le seul problème à l'heure actuelle dans la formation, c'est que la première année est un tronc commun.
Oui.
Un tronc commun entre les différentes disciplines. C'est-à-dire qu'on va demander à des gens qui ont fait que de la psychiatrie pendant 20 ans de faire de l'hémato-onco, de faire toutes les pathochroniques de stabiliser, de faire l'uronéphro. Oui. Donc autant se dire, ça peut être compliqué. C'est vrai que ça fait un tronc commun qui est très très dense. Et la deuxième année, donc en pathochronique stabilisée, on se focalise donc sur les disciplines. Et mine de rien, c'est que ça laisse peu de temps, en un an, de vraiment, on va dire, maîtriser toutes ces disciplines. Enfin, la cardio, c'est énorme. La pneumo, enfin, toutes les disciplines nécessitent du temps et des recherches. Et c'est vrai que d'avoir autant de disciplines à faire en l'espace de un an, c'est très très compliqué. Alors après, là en plus... Donc je ne sais pas si ça sera fait, mais il parle de mettre en première année une nouvelle mention, c'est parce qu'ils appellent ça des mentions, une mention urgence, une mention gériatrie. Enfin, je ne sais pas comment ils pourront implanter autant de mentions en tronc commun en première année. Enfin, voilà, c'est des choses qui m'interrogent. C'est vrai qu'après, ça laisse peu de temps pour vraiment, vraiment, vraiment approfondir ta spécialité. Ouais. Un an, je trouve ça un petit peu dommage. Ouais. Mais on voit
qu'on est au tout début de ton nouveau métier parce que...
Après, c'est un nouveau métier. Après, le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, des collègues IPA en activité, il n'y en a que très peu. Enfin, le décret, en plus, est sorti que récemment. Hein. Donc, il y a vraiment très peu de collègues qui sont en activité. Et ce qui manque dans la formation, c'est des IPA qui vont intervenir dans la formation. Ça donnera un petit peu de concret. Là, on a le corps médical qui intervient, ce qui est très bien parce que ça nous donne quand même beaucoup de matière. Mais c'est vrai qu'après, quand tu as des collègues de ta fonction qui interviennent, de ta future fonction qui interviennent, c'est quand même plus simple de s'identifier et si ça te donne du concret, tout
simplement. Oui, et puis c'est eux qui te font part de leur expérience savoir ce qu'ils ont vécu.
Non, mais c'est ça. Et puis bon, après, quand tu es à l'école d'inf, il y a des infs qui viennent te former. Quand tu fais une école de cadre, c'est pareil. Les IAD, c'est pareil, je pense. Non, ça manque. Mais après, c'est même pas une volonté de la faculté de ne pas les faire intervenir. C'est juste que pour l'instant, y en a trop peu. Donc, dès l'année prochaine, je pense qu'avec les premières promos qui sortiront, logiquement, on devrait avoir des IPA qui interviendront pendant la formation. Mais là, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est une grosse lacune. Mais c'est une lacune, c'est induit par la situation. personne n'est pour rien.
Et du coup, oui, passer d'un statut où tu es infirmier, tu bouges, en plus tu étais dans le service de soins intensifs.
Non, c'est très compliqué. Après, ouais, l'abandon des soins, entre guillemets, parce que je suis revenu pour la Covid, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à réaliser, vraiment, du mal à réaliser que je quittais les soins, entre guillemets. Et c'est vrai que ouais, bon, la rentrée c'était en octobre, donc après jusqu'en décembre, j'ai vraiment eu du mal. Je pensais que j'étais en vacances en fait. Enfin, en vacances, entre guillemets, je pensais que j'allais revenir dans mon service.
Oui, c'est ça, tu partais en formation et t'allais revenir.
C'est ça, donc j'ai eu beaucoup de mal, surtout qu'après, la formation avec du e-learning, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer. C'est très chronophage, on a beau être une partie du temps chez soi, et ben, l'organisation du travail est quand même un peu compliquée. L'avantage, c'est que ça te permet de pousser les recherches un peu loin. Quand tu es face à ton prof, tu peux poser des questions, mais c'est vrai que si tu dois approfondir certaines choses, il faut que tu le fasses à la maison, etc., etc. Là, tu le fais en direct. Tu as ton e-learning, il y a quelque chose que l'intervenant, toi, tu ne comprends pas, tu vas directement faire ta recherche et ça te permet d'approfondir tout de suite. Mais tu te retrouves après avec des cours qui font 15 diapos, par exemple, et qui, en fait, ça te prend 2-3 heures de travail parce que bah, tu recherches, parce que, alors surtout après, quand tu te lances dans des disciplines que tu ne maîtrises pas, genre les maths onco ou des choses comme ça, mais c'est hyper chronophage parce que t'évolues dans une discipline que tu ne maîtrises absolument pas. Et donc, il faut repartir sur des bases. Et c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment, ça demande une sacrée remise en question quand même. Surtout après, quand tu fais le stage, c'est un peu différent dans le sens où j'ai pas vécu le statut d'étudiant comme quelque chose de... comme j'avais pu le vivre en étant AF.
Ouais, c'est ce que j'allais demander.
Ouais, parce que quand je me rappelle mes années étudiants, dans certains stages, voilà, la place de l'étudiant n'était pas forcément la meilleure. Et c'est vrai que tu ne savais pas trop comment te positionner. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Là, mes stages, les choses sont relativement carrées. Tu sais pourquoi tu arrives, qui t'encadre. Après, tu restes avec un statut d'étudiant. Hein. Mais j'ai trouvé ça moins compliqué, en tout cas. Après, la seule chose qui est différente, c'est que tu gravites plus du côté du corps médical. Ça, par contre, c'est une différence qui est notable. Et c'est vrai que c'est là où ton positionnement avec l'équipe paramédicale, parfois, peut être délicate. Parce que tu es infirmier, enfin, ton côté infirmier de pratique avancée, tu es en formation, et c'est vrai que tu as un peu le cul entre deux chaises.
Ouais. Donc, moi, c'est ce que j'avais entendu parler, et c'est ce qu'on a discuté avant de commencer le podcast. Cette place que tu as entre eux, tu es infirmier, tu n'es pas médecin non plus.
Ouais, c'est un peu le côté un peu étrange du métier, c'est-à-dire que tu as tellement une part médicale qui est importante dans notre formation. Qu'on a vite tendance à nous limiter à ça, mais même s'il ne faut pas renier la part médicale, on reste des paramédicaux, et je pense que c'est ce qui fera notre force surtout. Ça reste du travail en collaboration, que ce soit le terme mini-médecin, je ne sais pas, assistant médical, même si dans les termes, on est des assistants médicaux, il me semble bien, dans les termes juridiques. Je trouve ça, ouais, j'apprécie pas forcément parce que ce n'est pas forcément la réalité, en fait, en tout cas. Donc, on est des infirmiers avec un champ d'action élargi, on est autonome, a appris à faire des examens cliniques, à optimiser des traitements, les arrêter, à effectuer la surveillance biologique ou toutes les surveillances nécessaires. Mais on a un champ d'action qui est limité, qui est bien délimité par le protocole d'organisation. Et dès qu'on va déceler une complication, on le renvoie directement chez un collègue cardio ou voire médecin généraliste. Mais ça reste une part de notre métier. Il y a toute l'autre part qui va être la recherche. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et c'est ce qui fera avancer notre profession et pas que les IPA, en fait, hein, les infirmiers aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'autant la recherche dans la culture anglo-saxonne est très avancée. Ils font de la recherche depuis très, très longtemps. Il y a un doctorat. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré. Autant les écrits faits par des paramédicaux en France, il n'y en a quasiment pas. Et qui donne de la légitimité à un corps de métier, je pense que ça passe par la recherche. Et ça manque cruellement. Et on a beaucoup de cours de recherche dans notre formation. C'est un gros morceau. Ce qui va nous apprendre à lire des articles.
Oui, c'est ce que j'avais demandé concrètement, à quoi ça correspond.
Ouais, en fait, c'est surtout pour la lecture critique d'un article. D'accord. C'est-à-dire que de savoir repérer, de savoir lire un tableau, de savoir repérer des études où il y a des biais, surtout de savoir si on peut s'appuyer sur cette étude pour l'utiliser dans nos pratiques. C'est surtout ça, parce qu'en fait, bah, toutes les études ne se valent pas. Et il y a certaines études avec des chiffres un peu farfelus qui sont publiés et qu'on ne peut pas forcément utiliser comme ça. Donc non, c'est plutôt pour nous donner un œil critique sur la lecture d'articles. Et après, par contre, toute la partie recherche, méthodo, etc., on n'a pas forcément... On a eu des cours de méthodologie, mais je pense que tant que tu n'as pas lancé un projet de recherche, toi, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est ce qui fera avancer notre corps de métier. Donc je pense que les IPA ont vraiment leur place là-dedans, surtout après que la recherche est un gros morceau à la faculté. Et après, les consultations durent quand même relativement longtemps, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Que même s'il y a une part qui est réservée au médical à proprement parler, avec l'examen clinique, les antécédents, l'interrogatoire, il y a toute une partie qui est réservée au conseil éducatif. Alors, on ne peut pas faire l'éducation thérapeutique à proprement parler. Enfin, l'éducation thérapeutique, normalement, faut un bilan éducatif partagé, fait avec ton patient, et ensuite c'est des sessions. Enfin, c'est quelque chose de très organisé et très structuré. Donc on ne peut pas dire que dans une consultation de pratique avancée, tu fais de l'éducation thérapeutique comme dans les textes. Mais en tout cas, tu donnes des conseils éducatifs et ça te permet déjà de donner une base et d'orienter après vers des collègues qui font de l'ETP ou des programmes d'ETP à part entière. Après, ça permet aussi de vulgariser un petit peu la situation, la maladie, de leur expliquer le rôle des traitements, de prendre en compte aussi beaucoup l'observance du traitement. C'est des choses, enfin moi je prends quand même 5-10 minutes pour l'observance du traitement, c'est quand même primordial, en sachant que les études ont prouvé que la quasi-totalité des patients faisaient leur sauce avec leur traitement. Et voilà, très très peu de patients qui sont vraiment très observants.
Donc c'est énorme, je ne pensais pas que ça soit si important.
C'est vraiment énorme. Et donc, bon, après, il faut expliquer pourquoi les traitements sont prescrits, leur rôle, essayer parfois aussi de diminuer des ordonnances à rallonge où les patients ont 10, 20 médicaments, des fois en faisant les associations, des fois en diminuant, c'est le cas pour l'hypertension par exemple, et ça permet d'améliorer l'observance du traitement du patient. Donc c'est une part importante et c'est là où c'est du travail collaboratif avec le corps médical, c'est que tout cette, pour le sevrage tabagique, enfin, on n'est pas tabacologue, mais on prend une partie de la consultation pour parler du sevrage, pour présenter, pour les substituts nicotiniques, pour leur expliquer pourquoi le sevrage tabagique est important, des choses comme ça. Si les gens ne sont pas vus par un tabacologue, en tout cas, les choses ne sont pas forcément expliquées dans ce sens-là. En tout cas, les patients que j'ai vus à l'heure actuelle, il y a quand même des lacunes, sans pointer, enfin, je ne pointe personne du doigt, hein, parce que mine de rien, c'est quand on voit la durée d'une consultation médicale, et ce n'est pas de leur volonté, hein, c'est-à-dire que de toute façon, quand tu as 10, 20 consultations, tu ne peux pas passer une heure par consultation, ce n'est pas possible. Donc, c'est là où le rôle, en tout cas de l'IPA, est vraiment très intéressant. Ouais, c'est un espèce, enfin, je décris ça un peu comme un couteau suisse, tu vois, c'est vraiment, t'as plein de cordes à ton arc, et c'est vrai que, alors oui, t'as celui du médical avec l'examen clinique, la possibilité de prescrire, etc., etc., mais tu as aussi toute cette facette-là du paramédical, c'est pas forcément spécifique aux paramédicaux, mais c'est des choses qu'on fait plutôt bien, et c'est vrai que c'est ce qui fera notre force, honnêtement, oui. c'est ça qui fera notre force. Mais bon, il va falloir du temps. Le métier est très méconnu à l'heure actuelle. Les patients ne savent pas trop. Ils ne sont pas contre. J'ai quelques questions par rapport à ma fonction. Après, souvent on m'appelle interne ou les trucs comme ça. Mais c'est vrai que les patients ne sont pas du tout réticents. Alors après, on est dans une structure hospitalière. Donc les patients se laissent un peu bercer au rythme des consultations. Et donc je pense que ça peut être différent dans l'exercice libéral.
Oui, c'est ça. Il me semble que aussi tu peux avoir des IPA en libéral.
Ah oui. Bah, en fait, mes collègues en libéral, elles auront un rôle fondamental dans les régions qui sont vraiment sous-dotées au niveau médical. Parce que le fait d'avoir cette autonomie, ça permettra de désamorcer beaucoup de situations. Le problème, ça va être la temporalité, si tu veux. C'est que quand tu prends un problème à sa base, tu vas éviter les hospitalisations, les complications, etc. Oui. etc. Et simplement, rien que le fait de, des fois, monter simplement ton diurétique, ça peut éviter une hospitalisation. Donc, donner cette autonomie-là à mes collègues en libéral, ça peut quand même améliorer beaucoup de choses pour les patients, en sachant que certains patients, il y a un médecin généraliste qui draine une région hyper importante, et mes collègues libérales se retrouvent à faire des choses hors décret, parce que là, à l'heure actuelle, elles sont infirmières, mais de toute façon, les médecins sont overbookés, elles n'ont personne sur qui s'appuyer. Non, elles auront vraiment un rôle primordial.
Oui, et puis même... là, elles auront les clés et tout ce qui va avec pour pouvoir faire ce qu'elles font déjà.
C'est ça, mais avec un cadre légal. Après, il va falloir du temps pour que la médecine de ville apprennent à connaître la pratique avancée. Il y a aussi beaucoup de malentendus sur la pratique avancée, c'est des infirmiers de coordination. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça, en fait. Alors, on peut avoir de la coordination dans nos consultations, et je pense que c'est nécessaire et important pour ne pas passer à côté de quelque chose, mais on n'est pas des infirmiers de coordination. Les collègues infirmières de coordination le font très bien. Donc, on n'est pas du tout... Il y a de la coordination dans notre métier, mais on n'est pas du tout infirmier de coordination. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de malentendus. Mais la médecine générale, il y a quand même beaucoup de réticences de la part des professionnels, surtout des médecins libéraux à l'heure actuelle. L'expliquer, je ne sais pas. En tout cas, les choses commencent à avancer progressivement. Là, toutes mes collègues avec qui on est en formation qui sont libérales, elles travaillent dans des maisons de santé avec des médecins qui sont hyper investis et qui pensent que ça sera une plus-value pour les patients. Donc, voilà. Je pense qu'il va falloir du temps pour simplement que la profession s'implante et qu'elle commence à être connue et reconnue. Donc, il va falloir un petit peu de temps.
Oui, comme tu dis, c'est tout neuf. Donc,
Non, mais c'est ça. Après, tu peux comprendre que les gens soient réticents. C'est vrai que devant un métier que tu ne connais pas, après, parfois, ça dépend comment il est présenté, mais c'est vrai que tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, dans quel contexte tu peux leur adresser des patients. Enfin, voilà, tu peux pas trop savoir.
On est d'accord que toi, tu prends en charge des patients chroniques qui sont plutôt stables. Et comme tu disais tout à l'heure, dès qu'il y a quelque chose qui se dégrade, mais que toi, à ton niveau, tu ne peux pas...
Par exemple, tu vas suivre un patient qui a été vu par un cardio, qui est dans son bilan de l'insuffisance cardiaque, qui a été coronarographié, on est dans le bilan d'étiologie, ils ont mis en place les IEC, les bêta-bloquants, les choses comme ça, et toi, tu le vois dans le cadre de ce qu'on appelle la titration des IEC. Parce que pour les bêta-bloquants, si tu as un mauvais VG, il faut passer en HDJ. Et donc après, pour la titration des IEC, par exemple, en tant qu'IPA, tu vas faire ton examen clinique, tu vas essayer de déceler des signes de surcharge, tu vas récupérer ta fonction rénale, tu vas t'assurer que tout est dans les clous, ta kaliémie, ta créatininémie, vérifier les effets secondaires pour éventuellement monter ta dose pour arriver à dose optimale. Ensuite, tu vas prescrire ta surveillance de la fonction rénale et la prochaine titration, si tu veux. Si ce même patient, tu le reçois pour une titration, tu lui fais un électro, tu vois que le patient est en FA. Ta consultation se termine là, entre guillemets, mais là, dans ces cas-là, ton patient n'est plus considéré comme stable et donc tu vas le confier à tes collègues médecins,
ouais.
En tout cas. Donc, c'est le but, en fait. C'est vraiment... Là, j'ai vu plusieurs patients qui étaient en décompensation cardiaque et qui, après, soit ont été hospitalisés. Donc, concrètement, c'est que tu fais ta consultation, tu notes que le patient, il a des EDM et qu'il crépite à mi-champ. Et bien, dans ces cas-là, ça relève plus de ta fonction. Et dans ces cas-là, tu vas demander une place pour une hospitalisation. Soit après, ça peut être en HDJ parce que une cure de furo, ou autrement, c'est une hospitalisation. Mais le but, en tout cas, c'est vraiment du moment où le patient fait un événement aigu.
Ouais.
Que ce n'est plus de ton ressort, tout simplement.
Voilà. Et tu as toujours un cardio qui est dans les parages pour...
Ici, oui.
Ouais.
Ah oui,
voilà.
Ici, l'avantage ici, c'est que tu as tout le temps, un médecin à qui te confier ou à qui demander un avis, en tout cas. Et c'est ce qui fait la force aussi du...
Ouais.
C'est qu'après, il y a une présence médicale qui est assez importante et de toute façon, donc, ça permet quand même de gérer pas mal de choses.
Oui.
Après, dans les petites structures où le corps médical est un peu moins présent, ça peut poser problème, effectivement. Là où ça peut limiter, enfin là où ça peut être un peu... Parce que les patients peuvent être stables, mais peuvent développer à bas bruit une insuffisance rénale. En fait, on s'aperçoit que ce qui pêche un petit peu à l'heure actuelle, c'est toute la surveillance fine des patients. L'INR, par exemple, sont quand même relativement bien surveillés, mais c'est pas rare de voir un patient qui a des grosses doses de traitement néphrotoxique avec aucune surveillance rénale dans l'année.
Oui, ou des patients qui ont des potassiums
qui vu flambe, qu'il fut cas depuis qui, deux ans.
Voilà, et que le labo n'est voilà. pas pour te c'est dire ça. Qu'il y a un souci.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Donc, c'est quand même pas rare. Et c'est vrai que le fait d'avoir un regard un peu nouveau sur cette prise en charge, et puis mine de rien, c'est que on est une nouvelle fonction, on est très discipliné, ça ne veut pas dire que les médecins ne le sont pas, mais en tout cas, on est vraiment cerné par les recommandations, et donc c'est vrai que je pense que de ce point de vue-là, en tout cas tout ce qui est surveillance de la stable des patients, mais que ça soit pas que pour la cardio, pour l'HB1C, pour la TSH, enfin ça c'est plus la cardio, mais pour la TSH, pour les gens sous cordarone, pour les bilans lipidiques, pour les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est toutes des choses sur lesquelles on peut intervenir et je pense bien améliorer les choses en tout cas. Après, je sais pas combien de temps ça va mettre à vraiment prendre.
Et alors concrètement, tu l'auscultes.
Alors ma consulte, voilà, j'accueille le patient, je me présente, je fais l'interrogatoire. Donc déjà, le but, c'est de récolter la plainte de ton patient, enfin, s'il a une plainte, oui. En sachant qu'il est stable. Donc logiquement, les patients ont souvent des choses à nous dire. Et c'est un moment privilégié, en fait. C'est vraiment le moment où tu fais connaissance et de deux, où tu peux apprendre pas mal de choses. Donc rien qu'à l'interrogatoire. Ensuite, après, tu récupères les biologies. Avec les ordonnances, et donc ensuite, après, tu arrives déjà à en ayant récolté les symptômes. Un patient qui te dit qu'il est orthopnéique, un patient qui dit qu'il peut pas monter deux marches, ça oriente un petit peu ce que tu vas trouver à l'examen clinique, on va dire. Mais donc, tu as toute cette partie là. Ensuite, après, tu as tout l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, tu as l'auscultation cardiaque avec la recherche de souffle, etc. etc. L'auscultation pulmonaire, donc à la charge de foyer, de crépitant, de sibilant, tout ce que tu veux. Ensuite, après, tu as toute une recherche vasculaire. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire je fais tous les pouls périphériques. Je cherche des souffles au niveau carotidien, abdominal et fémoral. Donc, il y a toutes les valeurs tensionnelles. Ensuite, il y a un électrocardiogramme avec l'interprétation. Donc, ce qui permet de, s'il y a un syndrome coronarien aigu ou s'il y a des troubles du rythme, de les détecter et de les réorienter si besoin. Ensuite, tu récoltes toutes les données que tu as eues à l'interrogatoire, à l'examen clinique, les éléments biologiques, l'électro, etc. Et ensuite, tout dépend pourquoi le patient t'a été adressé. Moi, si c'est pour les facteurs de risque, ton LDL qui n'est pas dans les clous, tu vas augmenter tes statines avec ton contrôle de BL dans 6 semaines. Si c'est pour une majoration des IEC, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas monter tes IEC avec ton contrôle biologique, etc., etc., etc. En fait, le but, y a aussi parfois où tu surveilles ce que le patient aille bien, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de patients aussi qui font une décompensation cardiaque, qui sortent avec une majoration des diurétiques et que je vois en consultation pour voir si, déjà d'une, c'est s'il n'y a pas de complications et si de d'une, s'ils présentent encore des signes de surcharge. Donc, tu vois, t'es pas forcément obligé de modifier des choses.
Hein. Oui,
c'est, ça reste du suivi. Oui, reste du suivi. Après, là, normalement, donc j'interviendrai dans la coronaropathie, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque.
En plus, tu fais des cours à côté pour les infirmiers des services.
Voilà, après, tu fais des cours. En tout cas, je fais des cours à côté. Mais le but, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que ce qui fait le charme du métier, c'est que tu as le côté vraiment autonomie. Tu as le côté recherche, moi, qui m'intéresse énormément. Alors après, il faut avoir le temps, parce que là, pour l'instant, avec tout ce qu'il y a à faire...
Oui, c'est ce que j'allais dire, je vois que tu as pas mal de missions.
Non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et tu as le côté aussi transmission de savoir, qui est vraiment très intéressante. Et d'accord. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que de former tes pairs, c'est quand même hyper important. Donc, ça te donne... ça te donne un métier quand même relativement diversifié.
Oui, c'est ce que j'ai l'impression.
Donc non, c'est plutôt pas mal. Après, il n'y a pas forcément de réticence au niveau du corps médical, hospitalier en tout cas. Moi, je n'ai pas ressenti de choses vraiment nettes. Après, je pense que certains sont un peu craintifs, dans le sens où c'est une nouvelle mission. Après, c'est difficile, je pense, de déléguer une part de leurs prescriptions. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Mais globalement, l'accueil a été vraiment très très bon et je pense qu'ils ont vite compris qu'il n'y avait aucune compétition et que c'était de la collaboration en fait. Il y a plus de soucis.
D'accord. Mmh. Et une dernière question, que tout à l'heure tu parlais du travail à la maison et tout. Au niveau de la vie familiale, ça a été difficile le retour
C'est un peu compliqué le retour à l'école et puis la quantité de travail. La quantité de travail, c'est très compliqué. D'allier tout, De tout allier,
ouais. Ouais.
Parce que là, par exemple, je suis pas loin des 50 heures par semaine, voire plus. Donc c'est vrai que ça fait des gros horaires. Et moi, on sait que c'est temporaire, hein, parce que bon, j'aurai pas ce genre d'horaire après, enfin, en tout cas, j'espère. Mais,
oui.
Mais ça reste une formation qui est quand même très prenante. Et ça reste une formation qui demande quand même beaucoup de remise en question. Ouais. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail en tout cas.
Une formation qui en évoluant, puisque c'est le début,
il
y a encore des choses qui peuvent être peut-être ajustées.
Et puis moi, mes deux années de formation ont été entachées par la Covid quand même. Hein, donc,
oui, c'est ça, voilà.
Donc c'est vrai qu'après, c'est difficile de faire un bilan vraiment objectif de la formation. Hein. Donc,
oui.
Ça ne peut pas être représentatif de ce que les futurs étudiants auront.
Oui.
Là, ça a vraiment été. On a eu des cours qui ont été annulés. On a eu beaucoup de distanciel. Enfin, ça a été vraiment complètement chamboulé par la Covid. Donc, il y a une période d'interruption. La première année, on a eu un stage au lieu de deux. Enfin, c'était la première promotion. Et en plus, avec toute la situation qui a fait que... j'ai une petite pensée pour les gens qui sont responsables de la formation, parce qu'ils ont vraiment dû se tirer les cheveux. C'était vraiment très compliqué. Mais bon, écoute,
oui.
Normalement, on devrait tous,
on
devrait tous finir.
J'espère, oui.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Mmh.
Moi, je te remercie beaucoup, Greg, d'avoir pris du temps sur ton boulot. Et puis voilà, je te remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée!